bara ju bara ju det för jam det bom 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 bom.
Le Yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern. Bonjour Astrid.
Bonjour Annette.
Alors,
retour de Paris.
Oui, de retour de Paris. Et donc, j'étais à la Maison de la Culture Yiddish. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'un ouvrage qui a été justement édité par la Maison de la Culture Yiddish. Alors, d'ailleurs, avec une très jolie couverture, puisque ça fait un moment que la Maison de la Culture Yiddish édite des livres bilingues, yiddish-français. Et d'habitude avec une couverture jaune qui est assez salissante. Et cette fois-ci, je donne tous les détails, ils ont fait une très jolie couverture. Je crois que c'est un dessin de Mondrian, il me semble. Illustration, non, pardon, d'après Paul Klee Moonshine, donc Claire de Lune, et ça a été adapté par Tal Rever Shibovsky, le directeur de la Maison de la Culture Yiddish.
Il adapte des
Il sait tout faire. Lui, sait tout, absolument tout faire. Bon, on pourrait lui consacrer plusieurs émissions, mais enfin, on va pas le faire aujourd'hui. Et donc ça donne une très jolie couverture, en plus qui n'est pas salissante, mais à l'intérieur, c'est la même présentation, c'est-à-dire d'un côté le yiddish, de l'autre côté le français. Oui, alors puisqu'on parle de l'édition, je dirais aussi que c'est vraiment la rencontre de deux grands du yiddish, alors Yitzhok Niborski, qui a consacré sa thèse à Zeitlin, qui est certainement un des plus grands connaisseurs de Zeitlin, dont sa thèse qui remonte quand même déjà maintenant presque à trentaine d'années, donc il n'a pas arrêté. Il nous a fait lire plusieurs fois des poèmes extrêmement difficiles, dont je garde de là un souvenir vraiment très fort, c'est Métatron. Alors Métatron est un ange qui est envoyé par Dieu sur Terre, qui a toutes sortes d'aventures, le tout dans une langue extrêmement difficile, que nous avions abordé lors d'une université d'été déjà il y a très longtemps et qu'on a refait avec Zeitlin. Bon là j'ai quand même pu constater que je comprenais un peu mieux. Voilà, donc on a fait toutes sortes de textes avec Yitzhok, et là c'est lui qui a choisi les textes. Il explique d'ailleurs qu'il y a eu plusieurs éditions, puisque ça c'est aussi une des caractéristiques des auteurs yiddish. Ils écrivaient beaucoup, mais ils avaient aussi vraiment la volonté de faire paraître leurs œuvres, et ils avaient aussi la volonté de les changer. C'est-à-dire qu'il y a souvent plusieurs éditions du même poème. On voit que les gens ont relisé, retravaillé leur texte. Et donc, Yitzhok explique quel texte il a choisi. Donc, Yitzhok, qui lui a choisi les textes et qui a fait une introduction extrêmement intéressante. Et puis, la traductrice, c'est Batya Baum. Batya Baum, qui est certainement la meilleure traductrice du yiddish actuellement. Et franchement, je trouve qu'elle a eu beaucoup de courage de s'attaquer à Zeitlin, parce que Zeitlin doit être un des auteurs les plus difficiles à traduire, peut-être avec Soutskever, je ne sais pas.
À égalité,
voilà. Donc ce sont des gens qui non seulement ont une très grande force poétique, mais en plus s'appuient sur des notions kabbalistiques, sur des jeux de mots entre l'hébreu et le yiddish, tout ça étant vraiment extrêmement difficile à traduire. Mais bon... Batya Baum ne recule devant rien, donc elle a fait la traduction. Voilà, donc de ce grand auteur yiddish, Aaron Zeitlin. Je crois qu'on peut dire que je mettrai Aaron Zeitlin en parallèle avec, selon deux notions. Alors d'abord la notion de poésie. Je pense que c'est vraiment le plus grand poète contemporain, oui, il est mort en 1973, donc 1898-1973. C'est certainement le plus grand poète contemporain avec Soutskever. Hein, là, c'est vraiment les deux grands poètes. Et puis, je le mettrai aussi en rapport avec ses amis, avec Bashe Wissinger et Trunk. Donc ça, ce sont les auteurs qui ont vécu en Amérique, en échappant à la Shoah, et donc de grands auteurs. Oui, Zeitlin est un auteur qui a commencé très jeune et qui a écrit toute sa vie. Donc c'est un petit peu ces géants de la littérature qui n'ont jamais cessé d'écrire. Évidemment, comme Bashevis-Zinger, bien sûr, et comme Yehoshua Trunk aussi. Il a commencé très tôt. Il y a d'ailleurs une petite anecdote à ce propos que raconte son frère El Ronan Zeitlin dans un livre qu'il a écrit, Na Literarischer Stube, dans une maison de littéraire, voilà la traduction. Et donc voilà ce qu'il raconte. Donc Bialik passe chez Hillel Zeitlin, le père de El Ronan et de Aaron Zeitlin. Et puis le petit Aaron, qui a 13 ans, lui lit un de ses poèmes. Bialik écoute et dit « Ah ben voilà quelqu'un qui est promu à une grande carrière de meurt de faim ». Voilà, parce que bah, évidemment les poètes ont du mal à vivre de leur plume. Alors Aaron Zeitlin a vécu vraiment un événement extrêmement tragique, c'est-à-dire qu'il est à New York. Donc il est parti à New York pour monter une pièce qu'il avait écrite en 1938. Donc il part à New York en 1838-39 pour monter Esther Kay. Esther Kay, c'est une pièce de théâtre écrite à propos d'une jeune juive, Esther K en polonais, c'est le diminutif d'Esther en polonais, Esther K en yiddish, et dont tombe amoureux le roi Kazimierz, le grand roi de Pologne. Et donc c'est toute une histoire d'amour qui est finalement une histoire entre la Pologne et les juifs, voilà, plutôt positive. Et donc, d'après l'introduction d'Itzrock, Zeitlin part non seulement pour monter cette pièce, mais parce qu'il sentait la montée du nazisme et qu'il voulait mettre à l'abri sa famille. Donc, il part à New York, la pièce est montée. Ensuite, il va à Cuba pour essayer de faire venir sa famille, mais ce n'est pas possible. Et donc, il va perdre dans la Shoah toute sa famille, c'est-à-dire son père, Hillel Zeitlin, sa mère, également sa femme et son fils. Voilà, et donc lui reste aux États-Unis, bien sûr, et survit, et donc va ensuite écrire énormément de choses. Et il va aussi transformer sa pièce Esther Kay en une pièce où, finalement, cette union, cette amitié, cette fraternité entre Polonais et Juifs est montrée comme absolument impossible. Voilà. Donc, c'est, on peut dire, la réaction du poète à un événement, évidemment, tragique. Et donc, après, il va toujours continuer à écrire une poésie extrêmement variée, et toujours mystique. Hein. Je crois que Yitzhak insiste aussi là-dessus, c'est-à-dire que c'est un vrai mystique, c'est-à-dire qu'il se pose vraiment la question de qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que Dieu, quelles sont les relations, où allons-nous, qui sommes-nous. Yitzhak dit que beaucoup de poètes yiddish utilisent la Kabbale, utilisent des notions religieuses pour leur œuvre, et ça c'est le cas de Bashevis-Zinger, mais sans être croyant, alors que chez Zeitlin, il y a vraiment la présence en permanence d'interrogations personnelles sur la...
Il y a un milieu pratiquant, croyant.
Oui, alors absolument, c'est-à-dire son père, Hillel Zeitlin, est en fait un Lubavitch. Il vient du mouvement Lubavitch. C'était un homme extrêmement cultivé, qui d'ailleurs a eu une grande influence sur les gens de Varsovie. Hein. Et justement, dans le livre « Ina Literarischer Stube », El Ronan décrit cette maison. Donc Hillel était un yiddishisant, était un hébraïsant, il a écrit beaucoup d'articles par exemple, et il accueillait tout le monde, voilà, extrêmement ouvert, hein. Donc il y a chez eux venaient toutes sortes de gens, et sans faire de distinction entre ceux qui écrivent en hébreu, ceux qui écrivent en yiddish, ceux qui sont religieux, pas religieux. Voilà, donc un homme très ouvert, mais très pratiquant, qui lui aussi a eu un moment des doutes, mais qui a fini par revenir à une religion de pratique, et qui a certainement passé à son fils d'abord une grande culture, et puis aussi une interrogation, une sensibilité tout à fait mystique. Voilà, ben je crois qu'on peut écouter peut-être une musique.
Ben alors c'est donc issu de ce Esther Kay, de cette comédie musicale, cette fameuse chanson très très connue, Donna Donna, qui est chantée en yiddish par tout le monde, qui est aussi chantée en anglais par John Baez, et enfin en français par Claude François, mais on ne va pas s'attarder sur la version de Claude François, qui ne raconte pas du tout le texte, qui s'éloigne énormément, qui est vraiment, à mon avis, pas du tout une bonne chanson. Par contre, la version de John Baez, qui est très proche du texte, est magnifique, magnifiée par cette voix et cette interprétation de John Baez. Mais on ne va pas non plus écouter John Baez. On va écouter parmi tout ce qui se propose comme interprétation en yiddish, eh bien, Noémie Weisfeld. Dans ce disque, son dernier, Soul of Yiddish, eh bien, elle reprend des choses de la tradition plutôt connue, avec sa manière à elle de chanter, qui n'est pas, j'ai presque envie de dire, pas vocale. Elle chante sans effets vocaux, de manière très intérieure, très dans une espèce de... presque de parler, chanter. Voilà. Donna Donna par Noémie Weisfeld.
Keine mit kein Knecht lacht.
Voilà, donc cette chanson raconte une histoire assez triste.
Mais
finalement,
oui, c'est affreux. Alors Donna Donna, c'est d'après certaines interprétations Adonai. On appelle Dieu. Alors c'est l'histoire d'un petit veau qui est amené à l'abattoir, tout simplement, et auquel on dit, si tu avais été un oiseau, tu aurais volé dans le ciel, mais non, tu es un veau, et donc tu es amené à l'abattoir. Plouf, stam.
Oui, alors on ne sait pas si c'est finalement prophétique, hein, est-ce que c'est simplement le poète, hein, parce que bon, les poètes ont souvent un aspect prophétique. Hein, on le constate, les écrivains et les poètes ont souvent décrit des choses qui vont arriver. Hein, et donc ça peut être simplement symbolique, et puis après ça a pris une résonance extrêmement importante par rapport à la chose.
Forte par rapport à ce qui s'est passé, oui. C'est tout à fait dans ce sens-là qu'elle est chantée aujourd'hui, quoi, dans ce contexte-là, sans le remettre dans le contexte de cette comédie.
C'est une pièce de théâtre, alors, où dans laquelle on a inclus des chansons, mais en fait la seule qui reste, c'est celle-là.
Esther. Et donc on le resitue pas dans cette pièce qui demeurait inconnue, n'est-ce pas ? Elle n'a pas été jouée par la suite.
Non, elle n'a pas. Nous l'avons étudiée évidemment à la Maison de la Culture Yiddish, cette fois avec Natalia Krinitska, qui est aussi une des grandes connaisseuses de Tzaïtine. On a fait aussi tout de suite, puisque Tzaïtine a aussi écrit beaucoup de théâtre.
Hein. Oui.
Voilà, donc il a écrit une pièce, par exemple, qui s'appelle Jacobson. Qui est une sombre histoire qui se passe sur l'océan avec un retour à Adam et Ève, enfin une histoire assez biscornue. Moi je trouve que le théâtre de Tzaïtine est très très abstrait, hein, c'est-à-dire que les personnages sont tous des symboles, sont tous des allégories, ils n'ont pas vraiment beaucoup de chair, mais il a écrit pas mal de théâtre. Donc Jacob Jacobson a été joué à Paris, monté par l'infatigable Tal Reven-Chibovski, qui jouait d'ailleurs dedans.
Puisqu'il sait aussi jouer.
Il joue. Et donc, c'était bien, c'était vraiment une belle réalisation. Et il a aussi écrit une pièce qui s'appelle Weizmann der Zweite, Weizmann 2, qui a été traduite et que nous présenterons à l'occasion. Et donc cette Esther Kay, qui n'a à mon avis pas été jouée, jouée aux États-Unis bien sûr, mais pas été montée depuis et qui n'a pas été traduite.
D'accord, donc il ne reste de toute cette pièce que cette chanson Donna Donna, mais qui elle a fait le tour du monde et est beaucoup chantée.
Bien, alors je vais lire deux ou trois poèmes. Bon, alors ce recueil a 300 pages, c'est vraiment une mine d'introduction à la poésie. Plus qu'une introduction, c'est vraiment une entrée dans la poésie de Zeitlinde. Et bon, c'est impossible d'en donner l'idée comme ça en quelques minutes. Je vais lire des poèmes qui ont lien avec le fait d'être un poète. Voilà, c'est le début, c'est dans les premiers poèmes de ce recueil. Voilà. Je vais lire en français et puis aussi en yiddish, puisqu'il y a le texte yiddish, il faut le faire entendre. Nouvelle langue. Sont venus des sons d'une étrange langue lointaine, se disperser à travers le monde, tels des orphelins sans logis. Au fil très télégraphique se sont suspendus, sur toutes les routes ont couru. Cette langue vient-elle des anges ou des orangs-outans ? Les langues vont-elles mourir ? Et elle, de son étrange musique, veillera sur leur tombe ? Ou peut-être est-ce une passerelle, cette langue nouvelle, entre homme et animal et ciel ? Et voici en yiddish, « Neue Sprach, gekommen seinen Klangen von Epes a weiter Sprach, sich über der Welt gegangen, wie je säumim on a Dach. Uns auf Sloupe sie zerhangen, gelaufen mit jeden Schliach, von Kruvim stammt die Sprach, sie von Orangutanen. Sie wählen starben Sprachen und sie mit ihr moderner Musik wird sie Käfer bewachen. Und efschar wird sie abrig, die dosige Sprach, die Nahe, zwischen Himmel und Mensch und Haie. Voilà, donc cette poésie avec aussi de l'humour. Hein. Vous, voilà, il y a l'histoire des orangs-outans qui arrivent tout d'un coup. Voilà, un peu le mélange.
Je ne connais pas du tout l'origine. Quoi. Comment, comme quand on demande à un auteur comment t'es venue l'idée de parler de ça ou ça. En général, on ne connaît pas. C'est un long cheminement intellectuel qui arrive à tel truc.
Oui, quoi. Et aussi, il faut vraiment se dire que pour ces poètes, le son est très important, le son, le rythme, voilà, donc ça peut venir comme ça pour rimer, pour, voilà. Et puis aussi vraiment, chez tous les poètes, ils disent, on peut dire le mélange entre les mots d'origine hébraïque et les mots d'origine slave ou allemande, ça c'est la richesse du yiddish, mélanger aussi les niveaux, tout ça est très, très important. Alors, voici un autre poème. Les poèmes doivent, comme Élie le prophète. Les poèmes doivent, comme Élie le prophète, entrer dans les demeures de nos pauvres frères. J'attends des poèmes qui deviennent poètes et attends des poètes qui deviennent poèmes. Ô jour qui viendra illuminer tous les âges, quand les poètes deviennent leurs propres vers, quand les poèmes prennent sang et visage, vont vers les hommes et se font poètes. Souffle nouveau pour de vieux cœurs, galvaniser des grenouilles inertes, faire éclore sur des bois secs des fleurs de fête, en tous les mondes proclamer le Shabbat. Es darfen Lieder wie Elias, es darfen Lieder wie Eliahu, achein in Stieber von Bidne Brieder. Ich wart auf Lieder, was wären Dichter, und wart auf Dichter, was wären Lieder. A Tag, was wird alle Tag belichten, wenn's wären Dichter das, was sie dichten, wenn's kriegen Lieder Blut und Gesichter, gehen zu Menschen und wären Dichter. Neuer Atem von alte Herzer, galvanisieren kalte Jabes, mit Blichterzer bejomtoven dare Herzler, in alle Welten ausrufen Jabes. Oui, ça fait penser à la chanson Shabbos, Shabbos, Shabbos.
Soll sein jeden Shabbos. Toutes ces forces arrivent à... Oui, proclamer Shabbat.
Proclamer Shabbat, voilà. Donc, c'est vraiment de nouveau le côté mystique. Alors, vous voyez, galvaniser des grenouilles inertes. Donc, ça fait allusion à des expériences qu'on fait où quand une grenouille, on prend une grenouille et puis on branche une électrode sur un muscle et puis on envoie une décharge et on voit que la grenouille bouge son muscle, même si elle est morte. Hein. Ça, c'est les expériences qu'on a fait pour montrer que le flux, c'est un flux électrique, enfin que le flux qui passe dans les muscles est électrique. Voilà, donc là, il fait allusion vraiment à des expériences tout à fait récentes qui se mélangent avec Élie le prophète, avec des choses beaucoup plus...
Et avec le Shabbat.
Et avec le...
qui se termine par le Shabbat, ou qui commence, commence et termine par le Shabbat.
Voilà, ben je vais plus en lire, mais vraiment, je crois qu'on va revenir à tout ça, puisque tu dois faire encore une petite annonce.
Et voilà, rappeler que dimanche 3 avril, donc à 18h, dans cette chère église protestante Saint-Pierre-le-Vieux, rue du 22 novembre, en bas de la rue du 22 novembre, ne vous trompez pas, il y a deux églises Saint-Pierre-le-Vieux, l'une à côté de l'autre, l'une c'est la catholique, l'autre c'est la protestante, et bien c'est dans la protestante que ça a lieu, dimanche 3 avril, donc à 18h, présentation de Pessah, la Pâque juive, en texte et en chanson, par moi-même, donc accompagné à l'accordéon par Fabrice Kiffer. Venez nombreux.
Une bonne introduction à Pessah, et on vous dit Shalom Aleichem.
Shalom Aleichem. Merci Lucas.
Le yiddish aujourd'hui.
Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités.
Avec Astrid Ruf
et Annette Fern.